Les années incandescentes, 18e et dernier épisode. Vienne, le 2 février 1904. Mon cher Heinrich, si tu savais comme je souffre en songeant à mes années perdues et de ne m'être pas mis plus tôt à la tâche, si ma santé était aussi robuste que ma volonté est ferme, tout serait pour le mieux, mais on ne rachète pas les années qu'on a laissées échapper. J'ai rencontré Stefan Zweig, qui suit les péripéties du mouvement sioniste et m'a fait part de son désarroi face à certaines réactions. Il me dit « Les Juifs de l'Est vous reprochent de ne rien comprendre au monde juif. Les économistes vous considèrent comme un feuilletoniste. Chacun a des griefs particuliers et ne les exprime pas toujours de la façon la plus courtoise. » Il m'avouait son dépit de trouver si peu de discipline dans le rang de mes amis. Je souris un peu amèrement et lui dis « N'oubliez pas que nous sommes accoutumés depuis des siècles à jouer avec des problèmes, à nous disputer sur des idées. Nous autres juifs n'avons, depuis 2000 ans dans l'histoire, aucune expérience des réalisations pratiques. Il faut apprendre ce parfait dévouement et moi-même. Je ne l'ai pas encore appris, car j'écris toujours à l'occasion des articles de critique. Je suis toujours rédacteur du feuilleton au journal, alors que ce serait mon devoir de n'avoir pas une pensée en dehors de la pensée sioniste, de ne pas coucher une ligne sur le papier pour une autre cause que celle-là. Mais je suis en voie de me corriger et je veux apprendre moi-même le dévouement sans réserve. Peut-être que les autres l'apprendront avec moi. » Mon ami, ma santé s'est soudainement détériorée. Mes palpitations cardiaques me laissent sans répit et lorsque je marche, je dois souvent m'arrêter pour reprendre ma respiration. Le docteur m'a ordonné de partir en cure à Edlar, petite station de montagne dans les Alpes autrichiennes, pour me reposer et éviter les contrariétés. Ton ami de toujours, Théodore. Edlar, le 4 juin 1904. Ma chère Mama Cam, il me faudra certainement quelques semaines avant que mon cœur ne soit un peu rétabli ici, car il a réellement besoin de se reposer. Je dois me couper de tout ce qui me rend nerveux. Ton fils qui t'aime, Théodore. Edlar, le 10 juin 1904. Julie, mon vieux trésor jaloux et adoré. Je sais bien que je n'en trouverai pas de meilleur que toi, chère et brave mère de mes chers enfants. Je voudrais, mon trésor, que nous soyons tous deux en bonne santé. Comme je t'aime tant. Je vais mieux, la couleur grise comme du papier buvard de mon visage a disparu. J'ai de nouveau les joues colorées. Ton mari qui t'aime, Théodore. Edlar, le 30 juin 1904. Mon cher Heinrich, mon état ne cesse d'empirer. Je ne suis pas dupe de ce que me disent les médecins. Mon cœur bat la chamade. Je peine à respirer. Je crache du sang. Julie m'a rejoint il y a peu. Elle prend très bien soin de moi. Cela n'a cependant pas empêché une violente dispute avec elle hier. Je crois bien qu'il s'agit de ma dernière lettre. Il est juste de se préparer à la fin. Je ne veux pas user de phrases creuses. Le sionisme aurait été le Shabbat de ma vie. Comme homme et écrivain, j'ai tant de défauts et j'ai commis tant de maladresses et d'erreurs. Mais comme chef du sionisme, j'ai gardé le cœur pur et complètement désintéressé. Ce que j'ai été pour les Juifs, les générations futures en jugeront mieux que mes contemporains. Mon nom grandira après ma mort. Pour avoir raison dans 30 ans, il faut accepter d'être considéré comme un fou pendant les 15 premiers jours. Je suis conscient, aujourd'hui comme hier, d'avoir toujours usé de ma plume en homme d'honneur. Je n'ai jamais vendu ma plume, je ne l'ai jamais utilisée à des fins médiocres, jamais même employée comme un instrument pour gagner des amitiés. La terre promise, où nous aurons le droit d'avoir des nez crochus, des barbes noires ou rousses, des jambes tordues sans pour autant être méprisables, où nous pourrons vivre comme des hommes libres sur notre terre et mourir en paix dans notre patrie. De telle façon que l'injure « juif » deviendra un titre d'honneur. Car Dieu n'aurait pas maintenu notre peuple aussi longtemps si nous n'avions encore une mission à remplir dans l'histoire de l'humanité. Le plus grand bonheur, pouvoir être ce qu'on est. J'ai demandé à Mamakam et aux enfants de venir au plus tôt. Ton ami qui te rejoindra bientôt. Théodore. Edlar, le 4 juillet 1904. C'est bien que tu sois déjà là, chère maman. Tu as bonne mine. Je n'ai pas l'air d'aller aussi bien, mais cela ira bientôt mieux. Ah, voici Pauline, Hans et ma petite Trudel. Mes chers enfants, vous voilà. Comme je vous aime tant. Quelle fière allure vous avez tous. Eh bien, mes chers trésors, vous m'avez vu et je vous ai vu. Maintenant, retirez-vous. Julie, mon trésor, la mère, tu sais comme je l'aime. Être couché sur le sable chaud, contempler le silence, guérir, guérir. Théodore Herzl meurt d'une crise cardiaque le 4 juillet 1904. Il a 44 ans. Ses obsèques, à Vienne, le 7 juillet, sont suivies par une foule considérable. Stefan Zweig, qui assiste à l'enterrement, témoigne. Ce fut une journée extraordinaire, une journée de juillet qui demeurera inoubliable à tous ceux qui l'ont vécue. Car soudain, affluèrent à toutes les gares, venus par tous les trains du jour et de la nuit, des hommes russes, turcs, de toutes les provinces et des petites villes, ils arrivaient soudain comme un ouragan. Et l'effroi que leur avait donné la nouvelle se lisait sur leurs visages. Jamais on ne sentit plus distinctement ce que les criailleries et les discussions avaient rendu imperceptible, à savoir que c'était le chef d'un grand mouvement qui était ici porté en terre. La procession était sans fin. Vienne, surprise, se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un quelconque écrivain ou d'un poète médiocre qui venait de disparaître, mais l'un de ces créateurs d'idées qui se révèlent triomphalement dans un seul pays, un seul peuple, à de vastes intervalles de temps. Un tumulte s'ensuit au cimetière. Trop nombreux étaient ceux qui s'étaient amassés soudainement autour de son cercueil, pleurant, sanglotant, criant dans une explosion sauvage de désespoir. C'était comme une émeute, une furie. Tout ordre était anéanti à travers une sorte de deuil en transe, tel que je n'en avais jamais vu auparavant et que je n'en verrai aucun autre similaire de toute ma vie. Et c'était ce gigantesque épanchement de douleur provenant de la profondeur de millions d'âmes qui me fit réaliser pour la première fois combien de passion et d'espoir cet homme solitaire et à lui seul était venu au monde avec la puissance d'une unique pensée.
Inspiré du journal de Théodore Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Mink, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.